Des questions. Madame Rangita de Silva de Alvis, vous avez 6 minutes. Merci, Madame la Présidente. Le gouvernement. Alors, l'article 15 parle de l'égalité en droit des femmes. Or, la constitution de votre pays, à l'article 35, consacre le fait que tous les citoyens sont égaux en droit, quel que soit leur genre. La constitution de votre pays, par ailleurs, est conforme aux dispositions de notre convention. L'égalité en droit garantit le respect de la procédure juridique, l'exercice légitime des droits à la liberté d'expression, à la liberté de rassemblement pacifique, y compris le fait de pouvoir se prononcer contre certaines choses de manière pacifique. Comme vous nous l'avez expliqué, l'article 19 de l'ICCPR, pardon, consacre le droit à la liberté d'expression et d'opinion. Or, la liberté d'opinion et la liberté d'expression sont expressément envisagées dans l'article 19 et sont considérées comme indispensables au plein développement de la personnalité. D'autre part, l'article 94 de la Constitution de votre pays exhorte à l'indépendance du judiciaire. Les juges doivent être indépendants et respecter strictement les dispositions de la loi. C'est ce que dit votre Constitution. Ma question est donc la suivante. Comment est formée la Cour suprême en ce qui concerne l'état de droit et l'indépendance du judiciaire? Qu'en est-il du recours aux dispositions de la CEDAW dans les décisions des juges? L'article 94, qui est nouveau, indique que les gens doivent pouvoir se défendre lorsque les affaires sont portées contre eux et qu'ils doivent disposer d'un avocat. Et c'est vrai pour les accusés et pour les autres parties. Est-ce que toutes les personnes accusées, y compris les dissidents politiques qui sont poursuivis en justice, ont accès à une aide juridictionnelle gratuite comme l'exige notre convention? Au titre de l'article 89 de la Constitution, le chef du village est chargé de la mise en œuvre des lois et des règlements. Or, comme vous le savez, les chefs de village ne sont pas toujours formés en droit. Par conséquent, ma question est la suivante. Ce processus d'interprétation et de mise en œuvre du droit est-il transparent, indépendant? S'effectue-t-il en dehors de toute immixtion? Dans quelle mesure l'interprétation du droit et la mise en œuvre du droit par les chefs de village fait-elle l'objet d'un suivi? Article 16, maintenant, ce dernier porte sur les droits des femmes au sein de la famille. Je commencerai par l'article 9 de la loi sur la famille dans votre pays qui porte sur les mariages d'enfants. Malheureusement, cette loi comprend une clause qui constitue un retard en arrière. Je cite l'article 9. Un mariage a lieu à 18 ans, mais dans certains cas spéciaux et nécessaires, cette limite peut être abaissée à moins de 18 ans, mais pas à moins de 15 ans. La question que je vous soumets est donc la suivante. La loi telle qu'elle est présentée ne définit pas ce qui est spécial et nécessaire. Par conséquent, cela introduit un élément d'ambiguïté du fait du libellé de la loi qui semble exhorter à une interprétation subjective du droit. Or, comme vous l'avez indiqué précédemment, 30% des jeunes femmes sont mariées avant l'âge de 18 ans. En d'autres termes, ce problème, et l'article 9 du Code de la famille en particulier, doit être revu et, nous l'espérons, amendé. L'article 8 est une disposition inhabituelle. Alors, je sais qu'elle émane de la coutume et des traditions de votre pays, puisqu'elle exhorte à des relations sexuelles avant le mariage. Si ces relations sexuelles devaient se produire et que l'homme ne se mariait pas avec la femme, il devrait offrir une somme pour restaurer l'esprit de la femme auprès de sa famille, conformément aux coutumes et traditions du pays. Je viens moi-même d'une société extrêmement traditionnelle d'Asie du Sud, et par conséquent, je comprends que ces lois s'intègrent dans le cadre d'un système traditionnel. Mais elles sont quand même peut-être obsolètes en 2024, n'est-ce pas? J'aimerais que la délégation envisage de revenir sur cette disposition, car elle pourrait avoir pour effet inattendu de susciter la stigmatisation à l'encontre des femmes. Pour ce qui est du programme de titres fonciers, nous en avons parlé, gestion des terres, programme de réduction de la pauvreté, octroi de titres à des femmes et partage des titres entre hommes et femmes, et la nouvelle loi sur le foncier n'indique plus qu'il faut que les deux époux bénéficient des titres fonciers à 50-50. Alors, je suis très admirative face au système matrilinéaire qui a été adopté au Laos tout au long de l'histoire. puisque ce sont les filles qui se transmettent les terres. Mais malheureusement, les femmes ne sont toujours pas toujours conscientes des efforts en matière de partage de titres fonciers. Or, il arrive qu'il n'y ait qu'une signature sur le titre foncier, étant donné que vous êtes donc une société matrilinéaire unique, il est important de préserver l'identité des femmes par rapport à leurs terres. Enfin, la question du divorce. Bien souvent, les femmes sont abandonnées avec leurs enfants dans des situations de crise économique profonde, sans aucun titre, sans qu'aucune somme ne leur soit versée. J'ai lu la loi et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de pension alimentaire prévue. Est-ce que vous envisagez des accords en ce qui concerne cette question? Et enfin, l'article 37 de la Constitution de votre pays affirme que les citoyens des deux genres bénéficient des mêmes droits dans les domaines politiques et dans les affaires familiales. La question que je vous soumets porte sur l'identification du genre dans le cadre juridique, qui doit comprendre toute la diversité des femmes, y compris les femmes issues de l'identité LGBTQIA+. C'est une question que je vous adresse, ce n'est pas une assertion, mais c'est une question, disais-je, que je vous soumets, car je souhaite mieux comprendre ce que l'on entend par affaire familiale. Merci.